porte dans l'Église et te remercions pour ce que toi, Seigneur, tu lui apportes aussi, ce qu'il va nous transmettre par sa bouche, mais ce qui vient de toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles jour après jour. Tu es fidèle, contrairement à nous, Seigneur, et nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen.
Bon, on vient de parler de la joie et moi je viens vous parler de à quel point c'est difficile d'être chrétien. Bon, j'ai pas trop de transition, mais c'est vrai que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Les pièges dans la vie chrétienne sont nombreux. Alors je dirais que peut-être au début ils sont un peu grossiers et puis voilà, il y en a certains qu'on peut éviter relativement facilement. Et puis, plus on avance, plus on affine, et plus on se rend compte que vraiment l'ennemi nous attend un peu partout, y compris dans les lieux où on s'y attend le moins, dans les lieux qui nous semblent peut-être les plus évidents. Et je voudrais parler, par exemple, du salut par la foi. C'est vraiment le béaba du protestantisme. Le salut par la foi, c'est, si j'osais, je dirais que c'est notre fonds de commerce, quoi. On le proclame vraiment à qui veut l'entendre. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce, au moyen de la foi. Le salut, c'est un cadeau, c'est gratuit. Ça ne dépend pas de qui nous sommes, ça ne dépend pas de ce que nous faisons, ça ne dépend vraiment que de l'œuvre du Christ à la croix. Et donc ce salut est plein et entier, il est certain, puisque tout a été accompli par Jésus. Et donc ce cadeau, on le reçoit en plaçant notre foi en Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a tout accompli. Donc ça, c'est super quand on a quelques années de vie chrétienne, voilà, dans une église évangélique. Ce message-là, je crois qu'on l'a entendu un certain nombre de fois. La théorie, on la maîtrise pas mal. Le problème, c'est que le salut, ce n'est pas un concept théorique, en fait. Le salut, c'est une expérience qui est éminemment pragmatique, éminemment pratique. Savoir que je suis sauvé, si je vis en réalité comme un condamné, ça sert à quoi ? Savoir que je suis libre, si je vis comme un prisonnier, ça sert à quoi ? Savoir que je suis enfant de Dieu, si je vis comme un esclave, ça sert à quoi ? Finalement, mieux vaut être encore comme l'aveugle à qui on demande « Qui est ce Jésus qui lui a rendu la vue ?» et qui répond « Écoute, qui sait ? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux ça ? Eh bien, parce que celui qui est passé de la mort à la vie, celui qui est passé de la prison à la liberté, de l'obscurité à la lumière, lui, il sait bien que ce ne sont pas ses propres forces qui l'ont sauvé. Il le sait parce que ses propres forces, il les a usées jusqu'à la corde, sans résultat. Alors quand il voit ce que Jésus a fait pour lui dans sa vie, celui-là, oui, il rend grâce à son Sauveur. Il sait à qui il doit son salut. Et si notre foi reste du domaine du savoir intellectuel, quelque chose qu'on maîtrise comme ça sur le bout des doigts, une bonne théologie bien droite, mais qu'on ne vit pas forcément, eh bien, il se passe que finalement, on passe notre temps à se battre en querelle de mots. On se demande où placer la virgule dans le texte grec, on disserte sur le moment exact de l'enlèvement, on palabre sur le type de poisson marin qui a pu avaler Jonas, et pendant ce temps, on reste coincé, bloqué, prisonnier. Alors ce matin, je voudrais vous parler de liberté, mais avant je vais prier également. Seigneur, nous te rendons grâce à nouveau pour ta parole. Et nous savons que bien des fois, cette parole, elle est ouverte par des gens qui la lisent comme un vieux bouquin, peut-être un sujet d'étude. Mais nous savons qu'elle est plus que ça, nous savons qu'elle est lumière et vie. Nous savons qu'elle a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur, d'aller nous chercher au plus profond de ce que nous sommes, au plus profond de nos difficultés. Mais nous savons aussi que pour ça, nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui nous permet d'accueillir cette parole par, je dirais, notre entendement spirituel. Seigneur, par cet esprit que tu as régénéré en nous. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir notre entendement maintenant, que nous puissions l'écouter avec la même puissance et la même force que quand toi tu la prononces. Qu'elle puisse toucher nos cœurs, nous transformer et faire son œuvre en nous, comme toi tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va poursuivre un petit peu notre chemin en Philippiens. On a parcouru Philippiens 1 et 2. Et aujourd'hui, on va lire Philippiens 3. Donc, Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Vous avez, Romains. Vous savez, Rococo Galéfico, c'est le Phi. Donc, Romains, les deux épîtres aux Corinthiens, etc. Et vous allez jusqu'à Philippiens. Chapitre 3. Où Paul parle et il dit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Moi, pourtant, j'aurai des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le huitième jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant à la passion, persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, Paul, dans ce texte, avertit les Philippiens d'un danger qui les guette, qui guette d'ailleurs plusieurs communautés chrétiennes au 1er siècle. Il leur dit ce qu'il va dire à d'autres. Prenez garde aux partisans de la mutilation. Alors, ces partisans de la mutilation, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont des Juifs qui, tout en disant être disciples du Christ, veulent imposer la circoncision aux croyants. Il y a maintenant dans l'Église des non-Juifs qui sont intégrés, qui s'intègrent, et donc la question, c'est, faut-il qu'ils soient circoncis ? Ces Juifs-là pensent qu'il le faut, et Paul dit, en fait, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas que Paul qui le dit, puisque cette question elle a été tranchée lors d'un concile. On voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 15. Un concile, c'est un moment où les chrétiens se réunissent tous ensemble. Ils ont tranché cette question de la circoncision. Et ce qu'ils ont dit, c'est que non, il ne faut pas imposer aux nouveaux croyants de se faire circoncire. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important, finalement ? Eh bien, c'est un sujet important parce que le signe de la nouvelle alliance, c'est le sang que le Christ a versé à la croix. Et ce sang versé, il est suffisant. Il est suffisant pour le salut de quiconque croit. Il n'y a rien à ajouter au sacrifice du Christ, pas même la circoncision. Alors, sous l'ancienne alliance, c'est vrai, Dieu avait donné la circoncision comme le signe de son alliance avec son peuple. Mais si vous vous rappelez, par exemple, lors de l'institution de la Sainte Cène, Jésus dit, en prenant la coupe, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Le signe de l'alliance, aujourd'hui, c'est le sang du Christ versé à la croix. Et donc, Paul dit, « C'est nous qui sommes les vrais circoncis. » Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la circoncision du cœur. Romains 2, verset 29 dit, « Est vraiment juif celui qu'il est dans le secret. » Sa circoncision, c'est celle du cœur qui relève non pas de la lettre, mais de l'esprit. Celui-là ne reçoit pas sa louange des humains, mais de Dieu. Pourquoi il la reçoit de Dieu et non des humains ? Eh bien parce que, contrairement à la circoncision physique, la circoncision du cœur, elle ne se voit pas. C'est quelque chose qui se passe entre nous et Dieu. Et nous recevons notre louange de Dieu. Et qui dit ça ? Ben c'est Paul. C'est un juif, il est circoncis. Circoncis le huitième jour, dit-il, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant à la passion, persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Alors, Paul, à vue humaine, était le premier à avoir un intérêt à défendre la circoncision et l'obéissance à la loi. Il était ce pharisien zélé, il était fin connaisseur des Écritures, il était strict quant à l'application des 613 commandements de la Torah. Mais, nous dit-il, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Tout à la poubelle à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alors, quand je dis « tout à la poubelle », ou quand Paul dit qu'il considère tout ça comme une perte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour les chrétiens d'obéissance à la loi, ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, ça ne veut pas dire que la loi est à jeter. En fait, Paul dit en Romains 7, verset 12, que la loi est sainte, que le commandement est saint, qu'il est juste, qu'il est bon. Il dit aussi au verset 14 de ce même chapitre que la loi est spirituelle. Mais il ajoute ceci, c'est intéressant, il dit « La loi est spirituelle, mais moi, je suis un être charnel vendu au péché. » Ça, c'est notre condition humaine quand on n'a pas eu, je dirais, cette régénération de l'Esprit, quand on n'a pas l'Esprit Saint en nous et qu'on aborde finalement, effectivement, les choses de façon charnelle. Or, la loi est spirituelle. C'est ça le problème. La loi est spirituelle et moi, je l'aborde de manière charnelle, de manière terrestre. Et quand je fais ça, je crois, parce que c'est comme ça que le monde autour de moi fonctionne, ce monde fonctionne de manière charnelle et terrestre, je crois qu'en appliquant la loi, Dieu me reçoit. Parce que c'est comme ça que ça marche partout autour de nous. Pour avoir les faveurs de quelqu'un, je dois les mériter. Mais que dit l'Esprit ? L'Esprit est celui qui nous fait dire « Abba, Père ». L'Esprit dit « Tu es enfant de Dieu ». Tu es enfant de Dieu, non pas parce que tu fais tout parfait, tout comme il faut, tout impeccable, un accueil super, magnifique à l'Église. Non pas parce que tu es méritant. En fait, Jésus est mort à la croix alors que nous, nous détournions le regard, alors que nous, nous ne le considérions pas. Il n'a pas attendu qu'on l'aime pour nous aimer. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et quand tu succombes à cet amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui, en fait, ne regarde pas tes fautes parce qu'elles ont été couvertes par le sang du Christ à la croix, alors cette loi devient pour toi parole d'amour de la part du Dieu créateur. Et alors, tu ne vas pas lui obéir pour gagner ton salut, tu ne vas pas lui obéir pour faire plaisir à Dieu ou je ne sais quoi, ou pour essayer de gagner ses faveurs, tu vas lui obéir simplement parce que Dieu t'a sauvé et que tu sais maintenant à quel point il t'aime. Parce que tu sais que sa parole, elle est lumière et qu'elle est vie. Parce que tu sais que sa parole est même plus digne de confiance que ta propre parole. Et ça, tu le sais parce que tu as testé ta propre parole et tu as vu où ça t'a mené. Ce n'était pas une bonne idée. Tu t'es retrouvé dans des impasses. Eh bien, cette parole-là te mène dans de verts pâturages. Et c'est cette illusion d'un salut qu'on pourrait acquérir par nos propres forces, par nos œuvres, par nos propres mérites, c'est ça que Paul regarde comme une chose à jeter. Ce qu'il veut à présent, c'est être trouvé en Christ. Ce qu'il veut, c'est être revêtu de la justice du Christ, parce que s'il se revêt de la sienne, eh bien, il est condamné. Si on se revêt de la nôtre, nous sommes condamnés aussi. Ce qu'il veut, c'est connaître le Christ, dit-il. Il veut connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je trouve intéressant d'ailleurs cette expression, je fais un petit aparté, connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Il y a des lieux où on insiste beaucoup sur connaître la puissance de la résurrection. Puis il y a des lieux où on insiste beaucoup sur la communion à ses souffrances. Et finalement, eh bien là, on peut dire qu'avec cette petite phrase, ce petit verset, exit l'évangile de la prospérité qui ne parle que de victoire, de bien-être, d'abondance, comme si Jésus était un coach en développement personnel qui vient surgonfler notre ego. Et ça fait du bien, c'est beau, c'est motivant. Le problème, c'est que c'est faux. C'est ça le problème. Et ce qui est vrai que l'évangile nous apprend, c'est que pour ressusciter, devinez quoi, il faut d'abord mourir. Il faut mourir. Il faut passer par la croix. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut observer dans plein de domaines dans notre vie. Souvent, pour accéder à des choses très belles, qui sont vraiment de l'ordre d'une résurrection, eh bien, il faut effectivement passer par des moments qui sont bien difficiles, bien compliqués. Il faut porter sa croix. Et ces moments qu'on peut observer dans notre vie, je crois que ce sont finalement des avant-goûts aussi de l'épreuve ultime qui nous attend tous, à moins que le Christ revienne avant, qui est l'épreuve d'être confronté à sa propre mort, l'épreuve de la maladie qui nous verra mourir, sauf si Jésus revient avant. Et en même temps, existe aussi l'évangile du dolorisme qui met la souffrance sur un piédestal comme si elle avait une valeur en elle-même. Les prophètes l'ont dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est Ésaïe 11, verset 9. J'aime beaucoup ce verset. De cet avenir glorieux que nous verrons dans la Jérusalem céleste, Dieu nous donne d'en goûter les prémices dès aujourd'hui, dès maintenant, en Jésus-Christ. La puissance de sa résurrection, elle est à connaître maintenant, dans nos vies. Ce n'est pas seulement pour un futur très lointain, quelque chose qui nous donne de l'espérance pour la vie future, mais qui finalement ne nous sert pas à grand-chose ici-bas. Non, c'est aussi pour maintenant. Et en même temps, on doit rester équilibré, et finalement, c'est ce que Paul fait, je crois. Il dit, est-ce qu'on a déjà obtenu tout cela? Ou en tout cas, c'est moi qui pose la question. Est-ce qu'on est déjà parvenu à l'accomplissement? Je pense que si Paul répond que non pour lui-même, on peut répondre que non pour nous-mêmes aussi. Lui semble plutôt parler d'un chemin. « C'est pas que j'ai déjà obtenu tout ça, dit-il, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis. » C'est ce qu'il dit au verset 12. Et puis, il y va avec entrain. Il n'y va pas d'un pas nonchalant, il n'y va pas en trottinant, il n'y va pas en marchant. « Non, dit-il, je cours vers le but. » Je cours vers le but. Il tend toute son attention dans cette direction et il nous invite, vous l'avez entendu, à l'imiter. Ceux qui ajoutent quelque chose au sacrifice du Christ se comportent en ennemis de la croix du Christ, dit Paul. Alors, je crois que ça, c'est entendu. C'est entendu. Il y aura sans doute personne ici pour défendre qu'il y aurait quelque chose à ajouter au sacrifice parfait du Christ à la croix. Personne qui viendrait prêcher là-dessus, à mon avis. Quelque chose me dit aussi que peu d'hommes aujourd'hui s'empresseraient de dire « Allez, tous à la circoncision, c'est parti, on y va. » En tout cas, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de volontaires. Et moi, perso, je rends grâce à Dieu pour le Concile de Jérusalem. Néanmoins, je voudrais vous raconter quelque chose qui date un peu, et j'espère que je ne vais pas vous perdre, que vous n'allez pas perdre le fil, mais quelque chose que je trouve intéressant de constater. Au début du XVIe siècle, un moine se flagellait au fond de sa cellule de moine. Ce moine, il vivait dans l'ascétisme et il s'efforçait tant qu'il pouvait pour gagner son salut. Il s'imposait une vie rude, une vie austère. C'était un homme pieux qui faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour plaire à Dieu. Seulement, malgré tous ses efforts, dans le regard de Dieu, il ne trouvait que condamnation. Il ne trouvait qu'insatisfaction. Il en faisait jamais assez face à ce Dieu qui posait sur lui un regard de colère. Et puis un jour, lors de la lecture quotidienne de la Bible qu'il s'imposait naturellement comme un fardeau de plus sur ses épaules, il est tombé sur Romains 1, versets 16 et 17. Alors, ce n'était pas la première fois qu'il lisait ces versets, mais ce jour-là, ils lui ont sauté à la figure et sa vie en a été bouleversée. Ces versets disent « Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec, car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. » Et il s'est dit, waouh, mais alors c'est pas par mes œuvres, c'est pas à force de me flageller, c'est pas par une vie ascétique, c'est par la foi en Jésus-Christ qui m'a racheté. Ce moine, c'est Martin Luther, vous l'aurez peut-être reconnu. C'est l'homme qui est à l'origine de la réforme protestante de laquelle nous sommes issus. Et ce qui lui a sauté à la figure ce jour-là, c'est ça, c'est que le salut, c'est un cadeau. C'est un cadeau offert à quiconque croit. Alors imaginez un peu le poids qui est tombé de ses épaules ce jour-là. Le Dieu qu'il avait adoré jusqu'ici, quelque part, n'était pas le Dieu de la Bible, c'était une idole. Notre Dieu est un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui libère. Et l'idole qui se dressait devant Luther, le condamnait et l'emprisonnait. Voilà aussi pourquoi on a besoin de l'Esprit Saint quand on lit la parole de Dieu. Au fond, ce que ce texte de Philippiens 3 nous apprend, et c'est là où je veux en venir, c'est que ce problème de vouloir ajouter quelque chose au sacrifice du Christ pour notre propre salut, ben, il n'est pas nouveau. Il existait dans l'Église primitive, on l'a vu en lisant Philippiens 3. Il existait au Moyen-Âge, au XVIe siècle, en tout cas. Et si vous voulez mon avis, il n'y a pas bien de raison pour qu'il n'existe pas encore aujourd'hui, quand bien même nous nous disons « c'est par la foi le salut ». Je pense qu'il existe encore aujourd'hui parce qu'il est inhérent à notre nature pécheresse qui ne supporte pas l'idée de n'avoir aucune part dans son propre salut. On veut participer, quoi. Il faut bien qu'on ait un petit mérite là-dedans quand même quelque part. Et c'est là où notre belle théorie qu'on professe, y compris ici, depuis la chair, moi-même, moi le premier, se confronte parfois à la réalité de notre vie intérieure, une vie intérieure qui d'ailleurs parfois transpire un peu vers l'extérieur, ça finit par se voir des fois. Il y a parfois en nous des lieux où tout chrétien que nous sommes, nous mettons, nous aussi, notre confiance dans la chair plus qu'en Christ. C'est le cas, par exemple, à chaque fois que nous ressentons un quelconque orgueil au fait d'être ce que nous sommes. Vous savez, ces moments où on bombe un peu le torse parce que nous sommes évangéliques, quoi. Et que, dans notre tête, être évangélique, c'est un peu comme être chrétien, mais un cran au-dessus, quand même. Il y a un peu la plèbe du chrétien, puis il y a l'évangélique, quoi, qui est là. Et du coup, on se retrouve comme ce pharisien de la parabole de Jésus qui priait au temple en disant « Oh, merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne, je prie 3 fois par jour quand même. Hein » Et Paul dit « Mais c'est poubelle tout ça. C'est poubelle. C'est très bien de jeûner et de prier. La loi est bonne. La loi est bonne, mais ce n'est pas ça qui te sauve. Ce n'est pas ça qui te sauve. » Et des lieux comme ça où, au fond du fond, nous pensons qu'il y a quelque chose à ajouter au sacrifice du Christ pour être sauvé, ben, il peut y en avoir plein. On peut croire vraiment dans sa tête que le salut, c'est un cadeau, et dans son cœur, trembler de crainte parce qu'il y a un péché avec lequel on lutte depuis des années et qu'en vrai, on se dit que Dieu ne peut pas nous accueillir tant que ce problème-là ne sera pas réglé dans notre vie. Il ne peut pas. On peut croire dans sa tête que le salut est un cadeau et dans son cœur être plein d'orgueil parce que nous, on prie tous les jours et qu'on connaît par cœur des pans entiers de la Bible. Et ça, quand même, ça fait de nous des chrétiens un peu plus méritants que les autres devant Dieu. On peut croire dans sa tête que le salut est un cadeau et penser qu'on est quand même un peu plus sauvé que les autres quand on est baptiste. Non ? Si, un peu quand même, non ? Non ? Ah bon ? Tout ça et bien d'autres choses encore, nous devons le considérer comme une perte à cause du Christ. Et l'enjeu, évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas notre salut. L'enjeu, c'est de vivre libre. C'est de vivre sans le joug pesant d'un fardeau que Dieu n'a pas mis sur nos épaules. Et c'est aussi de briser l'orgueil qui peut subsister en nous et qui constitue en fait un frein sérieux à l'action de l'Esprit-Saint dans nos vies. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, simplement, c'est de prier. Et je vais demander au Seigneur de nous montrer, peut-être, quels sont ces lieux en nous où nous avons cette tendance à ajouter quelque chose au sacrifice du Christ. Soit quelque chose que nous faisons par crainte, parce qu'au fond, on pense que sans ça, Dieu ne peut pas nous sauver. On sent encore ce poids de la condamnation qui pèse sur nous. Soit quelque chose que nous faisons et dont nous tirons orgueil, parce qu'au fond, nous croyons qu'avec ça, nous gagnons quand même quelque chose de notre propre salut. Je vais prier. Seigneur, nous voulons que notre vie soit conforme à ce que nous professons. Nous professons parce que vraiment nous le croyons, Seigneur, que le salut vient de toi, seulement de toi, qu'il ne dépend pas de ce que nous faisons, qu'il ne dépend pas de nos mérites, sans quoi nous serions perdus. Et puis en même temps, il y a peut-être effectivement des lieux comme ça en nous, où au fond, nous nous enorgueillissons, nous sommes très fiers de nous-mêmes, très heureux de nous connaître, parce que nous faisons ceci ou cela et que nous croyons gagner tes mérites et ta faveur, comme si tes mérites et ta faveur n'étaient finalement pas gratuits, comme si le sang du Christ n'avait pas suffi. Il y a peut-être des lieux, Seigneur, où nous agissons aussi par crainte, parce que nous croyons que si nous ne faisons pas ceci ou cela, en vrai, tu ne vas pas nous sauver. Seigneur, je te prie de faire remonter ces lieux en nous-mêmes pour qu'ils viennent à notre conscience. Ces lieux qui sont des lieux d'orgueil ou des lieux de peur. Je te prie de faire remonter ça à notre conscience maintenant. Seigneur, nous ne voulons plus vivre avec ce poids de la condamnation qui pèse sur nos épaules, alors même que ta parole dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Nous voulons accueillir pleinement cette parole dans ce lieu même où nous sommes encore dans la crainte de ta colère parce que nous n'avons pas fait ceci ou cela. Cette crainte, Seigneur, nous la déposons à tes pieds. Et nous accueillons en nous-mêmes ton amour inconditionnel, Seigneur. Et sur ce lieu-là, tu vas nous aider à progresser. Mais c'est ton œuvre. C'est non seulement ton œuvre à la croix qui enlève cette condamnation, et puis c'est aussi ton œuvre de sanctification. Tu viens travailler en nous par ton Esprit Saint. Nous voulons te faire confiance. Nous ne voulons plus nous appuyer sur nos propres forces. Nous te remettons aussi tous ces lieux d'orgueil où au fond nous pensons mériter plus que les autres parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons fait cela, parce que nous sommes de telle assemblée ou de telle autre, parce que nous avons telle pratique spirituelle. Seigneur, nous voulons vivre par ton esprit qui libère. Seigneur, nous déposons toutes ces choses à la croix maintenant et nous les laissons là. Nous ne voulons pas repartir avec. Et à tous les instants où ces choses-là reviendront dans nos vies, nous nous dresserons et nous réaffirmerons que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Nous avons foi en toi, pas en nous. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez besoin de davantage que cette prière de fin de culte, ben n'hésitez pas à me contacter, à venir me voir, soit à la fin du culte si vous y arrivez, sinon voilà, un petit coup de téléphone, un mail, ça fonctionne aussi. Alors, est-ce que Willy est parmi nous ? Non, il n'est pas arrivé, d'accord. Willy devait apporter un... Voilà, il souhaitait apporter un petit témoignage parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et je ne sais pas, j'espère qu'il va bien en tout cas. Il voulait apporter un petit témoignage, mais en tout cas, du coup, maintenant que vous savez que c'est son anniversaire à Willy, eh bien, vous pouvez le lui souhaiter. Et si vous voulez bien, je vais simplement prier pour lui parce que voilà, c'est un petit peu étrange tout de même. Il avait ça à cœur, il n'est pas parmi nous, donc j'espère que ça va bien. Seigneur, nous voulons te remettre Willy. Nous ne savons pas où il est ni pourquoi il est absent. Seigneur, il voulait témoigner de ta fidélité dans sa vie, Seigneur. Et nous croyons, nous aussi, que tu es fidèle, Seigneur. Alors nous te prions vraiment de le bénir là où il se trouve et que cette journée puisse être une belle journée pour lui. Nous savons qu'il est dans ta main. Et voilà, nous te demandons de l'accompagner dans tout ce qu'il vit. Nous te rendons grâce pour ces nombreuses années de vie que tu lui as déjà données. Et nous te rendons grâce aussi pour ce temps, cette nouvelle année qui s'ouvre devant lui. Et nous te prions de continuer de poser ta main sur lui comme tu l'as toujours fait. Seigneur, nous savons que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen.